France.
Géopolitique, le débat, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Les États-Unis ont donc un nouveau président. Barack Obama prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. Beaucoup d'espoir se porte sur le futur occupant de la Maison Blanche. Trop, peut-être. Le monde a des attentes. Elles sont nombreuses. Sont-elles fondées? Qu'est-ce que Barack Obama parviendra à faire? Quels sont en politique étrangère les dossiers prioritaires? Pour répondre à ces questions et quelques autres, Olivier Hubach, consultant pour la Compagnie européenne d'intelligence stratégique. Bonjour, Olivier Hubach.
Bonjour.
Philippe Golub, professeur en relations internationales à Paris 8 et à l'Université américaine de Paris. Bonjour Philippe Golub.
Bonjour.
Également Ronald Atto, professeur en relations internationales à Sciences Po Paris. Bonjour Ronald Atto.
Bonjour.
Et par téléphone, Catherine Croisier, chercheuse associée, spécialiste des États-Unis au Centre d'études transatlantiques. Bonjour Catherine Croisier.
Bonjour.
On a rarement vu, Catherine Croisier, une élection américaine aussi suivie, aussi passionné à l'étranger, une élection, on va dire, mondiale, universelle. Alors le monde qui s'est plaint de l'unilatéralisme de Bush ne manque pas finalement de donner des gages à cette superpuissance américaine en lui conférant toute l'universalité qu'elle lui a conférée pour cette élection.
Il est vrai que le monde entier a observé cette élection avec énormément d'attention. On n'a jamais vu autant d'espoir et d'enthousiasme vis-à-vis d'une élection américaine. Bon, il est vrai qu'après 8 années d'administration Bush, il y a des attentes, il y a des espérances. Je pense qu'il est intéressant de noter dès le départ que lors de son discours d'acceptation, Obama a montré qu'il était très conscient de ses attentes et il a essayer de faire passer le message que la route serait longue, que les défis allaient être importants. Il a dit qu'il faudrait sans doute davantage d'un seul mandat pour réussir à aller jusqu'au bout des grands programmes qu'il espère mettre en place. Et puis il a évoqué également les responsabilités. C'était un petit peu un discours à la John Fitzgerald Kennedy en disant aux Américains, voilà, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays et pas seulement ce que votre pays peut faire pour vous. Et je pense que c'était aussi un message vis-à-vis des pays étrangers qui, eux, également ont énormément d'attentes en disant, voilà, il y aura des responsabilités qui sont à partager. Je suis prêt à discuter, je suis prêt à m'engager sur la scène internationale, à ouvrir le dialogue, mais les responsabilités vont être communes. Le destin des États-Unis, c'est en fait le destin de la planète entière.
Donc c'est cela, le discours de Chicago, un discours universel. Est-ce qu'on peut parler, Philippe Golub, vous qui êtes américain, est-ce qu'on peut parler de choc psychologique, l'élection d'Obama comme un peu un électrochoc qui est à même d'aider finalement le monde à se sortir du trou et à reprendre confiance?
Alors évidemment, il ne faut pas sous-estimer en relations internationales l'opinion publique mondiale, la subjectivité, les perceptions comptent beaucoup en relations internationales, mais il ne faut pas sous-estimer non plus les dures réalités des relations interétatiques. C'est-à-dire que les espérances soulevées que l'on constate à peu près partout dans les populations mondiales, que ce soit les populations européennes ou par exemple au Japon, ne sont pas nécessairement partagées par des États qui sont des monstres froids, comme vous le savez. Je ne suis pas moi-même un réaliste en relations internationales, mais je pense que les États ont des logiques froides. La direction chinoise, la direction russe, les différents États dans le monde arabo-islamique, par exemple, je ne donne que quelques exemples, ne sont pas guidés par les sentiments. Il reste à savoir ce qui va se passer dans le concret. Les États-Unis ne sont pas une puissance universelle. Les États-Unis sont une puissance mondialisée dont les intérêts convergent parfois, mais pas toujours avec les différents autres acteurs du système.
Ronald Atto.
Oui, et à cet égard, je tiens à rappeler que Barack Obama est aussi le dirigeant d'un monstre froid, les États-Unis. Et ça, je pense qu'on l'a un peu perdu de vue, et je ne veux pas briser le rêve de l'opinion publique mondiale, parce que j'ai vu, par exemple, à Sciences Po, les étudiants ont organisé des journées américaines pour fêter l'élection de Barack Obama. Il y a énormément d'attentes, mais comme mon collègue vient de le souligner, les États sont des monstres froids et au premier rang desquels les États-Unis et Barack Obama, on a pu identifier pendant la campagne électorale qu'il restait un pragmatique, peut-être pas un réaliste pur et dur, mais c'est certainement un dirigeant qui est pragmatique.
Olivier Hubach.
En fait, on a l'impression qu'on est passé d'une critique des États-Unis du temps de Bush. Les États-Unis ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à leurs intérêts et de façon unilatérale, enfin on y reviendra. Et aujourd'hui, on a l'impression que dans l'attente de la communauté internationale, avec ce changement de président, président, brusquement, les États-Unis, enfin le président des États-Unis est quelque part un peu le président du monde, alors que je crois que là-dessus, il ne faudra pas se leurrer. Il défendra avant tout les intérêts américains et exclusivement les intérêts américains, et comme ça a été rappelé tout à l'heure, avec éventuellement parfois des intérêts convergents, mais uniquement lorsque ceux-ci seront convergents. Et je pense que là-dessus, les Russes ou les Chinois ne s'y trompent pas, et d'ailleurs, dans leur réaction, certes, ils ont félicité, enfin dans le cas russe, à peine félicité le nouveau président, et en rappelant tout de suite les règles du jeu, qui sont des règles interétatiques, où là, c'est plutôt un dialogue entre monstres froids qui aura lieu plutôt que celui versé dans les sentiments et l'espoir d'un monde parfait et meilleur.
Alors, est-ce que pour commencer, on peut dire que cette élection, finalement, aura déjà neutralisé, on va dire, l'anti-américanisme qui s'est développé un peu partout dans le monde, qui veut répondre Catherine Croisier, peut-être ?
Oui, je veux bien répondre, puisque Philippe Golub disait tout à l'heure que la question de la subjectivité était importante au niveau de l'opinion publique. C'est vrai, c'est beaucoup une affaire de perception, mais là, on est à un moment qui est particulier. C'est une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour les États-Unis, un petit peu de la même manière qu'il y avait une fenêtre d'opportunité pour l'administration Bush au lendemain du 11 septembre. Bush n'a pas su saisir cette opportunité. Il a lancé la guerre en Irak, il a contribué à diviser l'Europe et le reste du monde. Obama a au moins une fenêtre qui va être très très courte, mais qu'il faut utiliser autant que possible. C'est vrai que la perception que le reste du monde a pu avoir des États-Unis a été très malmenée. Même si les États-Unis vont conduire une politique qui est pragmatique, qui reste sur l'intérêt national, c'est ce qu'on a pu avoir sous l'administration Clinton, il est important quand même de souligner que une grande partie du monde est prête à redonner sa chance aux États-Unis.
Fenêtre d'opportunité, Philippe Golub.
Oui, effectivement, fenêtre d'opportunité très importante au plan intérieur, parce qu'il a de très grandes marges de manœuvre, et fenêtre d'opportunité plus limitée, certes, mais réelle au plan international.
Très grande marge de manœuvre sur le plan intérieur,
très
grâce au Congrès, qui lui est favorable.
Pas seulement grâce au Congrès, mais grâce aux deux chambres du Congrès, et grâce au fait qu'il y a une dynamique sociale et politique, il y a une grande crise qui crée les conditions de possibilité d'un véritable changement de politique. Mais au plan international, la fenêtre d'opportunité dépend des politiques qui sont menées. C'est-à-dire, je ne donnerai qu'un exemple. S'il s'agit d'essayer de retourner la situation dans ce que les Américains ont appelé sous Bush le Grand Moyen-Orient, une appellation très vaste pour une zone très plurielle, hein, très plurielle, il pourrait, il y a certains des conseillers autour d'Obama envisagent par exemple une ouverture stratégique vis-à-vis de l'Iran, n'est-ce pas ? Mais il y a une lutte au sein de l'administration sur ces questions. Mais donc, fenêtre opportunité, oui, mais tout dépendra des conditions concrètes de mise en œuvre des nouvelles politiques.
Ronald Atou.
Je suis tout à fait d'accord avec Philippe. En fait, il y a au sein même du Congrès, chez les démocrates, il y a aussi des conservateurs qui vont avoir des difficultés à accepter, je pense, un affaiblissement de la position américaine à l'égard de l'Iran. Et puis il y a un autre élément que le président Bush soulignait hier, c'est-à-dire que c'est la première fois depuis la guerre du Vietnam que la transition politique aux États-Unis s'effectuera alors que le pays est en guerre. Et la crainte de Bush et de voir des groupes, il n'a pas identifié lesquels, mais des groupes cherchaient à déstabiliser la transition en commettant un attentat ou en essayant justement de frapper les intérêts américains. Et ça pourrait éventuellement modifier ou refermer, si vous me passez l'expression, la fameuse fenêtre d'opportunité évoquée précédemment.
Donc cette transition, elle se passe sous grande tension, Olivier Bach.
Oui, cette tension avait été soulignée même avant la transition actuelle. Hein. Au lendemain du 11 septembre, il y avait un rapport qui avait été remis, précisant justement que la période de transition était une période vulnérable pour les États-Unis. On le comprend bien. Alors aujourd'hui, effectivement, avec deux conflits ouverts que sont l'Irak, l'Afghanistan, une double crise économique et financière, il est évident que actuellement les États-Unis sont dans une période qui peut s'avérer délicate si jamais les intérêts américains venaient à être frappés dans les semaines à venir et même d'ailleurs dans les premières semaines de la présidence d'Obama proprement dite, puisqu'il faudra quand même du temps pour s'installer dans le siège, même si tout sera fait pour que ça se passe au mieux, mais il est évident qu'il y aura une difficulté. Moi, j'aimerais juste revenir rapidement sur le crédit extrêmement important dont bénéficie Barack Obama. Je pense aussi que c'est une faiblesse, en ce sens que l'attente est tellement forte que le risque de déception, là je parle pas aux États-Unis où la route va être beaucoup plus longue, et je pense que les Américains sont beaucoup plus conscients que c'est pas du jour au lendemain que le système de santé va évoluer, ainsi de suite. Par contre, le reste du monde, lui, est en attente un peu d'une sorte de miracle, c'est en tout cas l'impression que j'ai, aussi bien dans les déclarations de certains États.
Pas tout le monde, Philippe Golub le disait
seulement
tout à l'heure,
c'est
que seulement en Europe.
Ça, c'est une, je pense que c'est pas une critique que je formule par rapport à vous, c'est une illusion européenne. C'est-à-dire, l'Europe, les attentes européennes ne sont pas les mêmes que les attentes, par exemple, les attentes en Asie ou les attentes au Moyen-Orient, peut-être en Afrique. Mais il faut distinguer voilà. les différents niveaux des attentes populaires dans telle ou telle région du monde.
Au Canada, je suis canadien et je peux vous dire que j'ai des échos des Canadiens et qui sont à peu près aussi excités que les Canadiens. Il y a vraiment que effectivement c'est peut-être le monde transatlantique en fait qui a énormément d'attentes. C'est l'effet, ce que j'appelle, c'est l'effet post-Bush qui fait que la fameuse communauté de sécurité transatlantique, l'OTAN, incluant les Canadiens et les Européens, sont particulièrement heureux finalement de voir que la période Bush se ferme. Pour reprendre le terme de mon frère, il m'a dit c'est la fin des ténèbres.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle attend, après ça on reviendra aux questions de politique intérieure, mais qu'est-ce qu'elle attend l'Europe? Alors Catherine Croisier, vous qui...
Oui, alors on va en savoir un petit peu plus dans les prochains jours, puisque Bernard Kouchner doit se rendre à Washington mardi prochain, et il est censé présenter à Barack Obama un document transatlantique.
Le ministre français des Affaires étrangères.
Par les 27. Alors, sans doute déjà un message positif, disons que l'Europe est prête à travailler avec les États-Unis.
Ce qu'elle a déjà fait savoir aux Américains en envoyant une lettre appelant à un partenariat avec les États-Unis, on peut s'en étonner d'ailleurs, comme si elle avait un peu besoin de se positionner, d'exister l'Europe vis-à-vis des États-Unis.
Bah, l'Europe s'inquiète sans doute des attentes qui vont lui être demandées, parce que les attentes sont partagées. Il est vrai que le monde attend beaucoup de Barack Obama, mais Obama a déjà signifié qu'il attendait beaucoup de ses partenaires. C'est le message qu'il a fait passer déjà dès le mois de juillet lors de sa tournée internationale, lorsqu'il est venu à Berlin et qu'il a fait ce grand discours qui a été applaudi par autant d'Européens, alors pas uniquement des Berlinois. Et il a bien précisé qu'il attendait beaucoup de ses partenaires. Ce sera le cas notamment en Afghanistan, où il attend que les partenaires OTAN et Union européenne se mobilisent alors pour apporter un soutien à la force ISAF, un soutien pour la reconstruction, donc un soutien financier, un soutien en termes d'hommes. Donc l'Europe a des attentes, mais l'Europe va devoir également faire face à ses responsabilités.
En pleine crise financière, qu'est-ce que peuvent valoir les demandes d'Obama en matière de mobilisation des Européens, notamment en Afghanistan, en demandant des rallonges et puis également plus d'hommes?
Ce sera assez inconfortable pour les Européens, in fine. Parce que les États-Unis, en période de crise financière grave, vont demander aux Européens, effectivement, comme Obama l'a déjà fait, du burden sharing, de partage du fardeau. Et on voit mal les Européens dans l'état actuel, à la fois de leur propre crise économique, de leur manque de moyens militaires, de la difficulté qu'ils ont déjà à mobiliser des forces, par exemple, pour aller en Afghanistan. Je veux dire, 2000 troupes françaises en Afghanistan, ce n'est pas exactement une démonstration de puissance très dramatique. Les Européens auront beaucoup de mal à se mettre à la hauteur du défi. Donc, pour négocier à égalité avec les États-Unis comme partenaire égal, de poids égal, il sera très difficile à l'Europe de s'affirmer. Dernier point, les États-Unis, inévitablement, vont regarder vers les nouvelles grandes puissances émergentes. Puisque la réalité du monde est là. C'est pas par méchanceté, c'est la réalité du monde est là. La Chine, l'Inde, le Brésil, etc.
Olivier Bach.
J'aimerais revenir sur ce que c'était cité, le discours de Berlin, qui à cet égard, par rapport à l'Europe, est plein de significations. La référence à l'Union européenne en tant qu'entité Union européenne n'est pas mentionnée. C'est l'Europe, mais l'Europe en tant que zone géographique. Et là, tout est là. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle des instances de défense et de sécurité, il parle de l'OTAN, qui l'encense très fortement, et absolument pas les défenses européennes. Alors même qu'aujourd'hui, là je parle vraiment, présentement, dans les jours qui viennent, se négocie la suite justement de la construction de la défense européenne comme étant un outil complémentaire à côté de celui de l'OTAN. Et on voit bien qu'en tout cas, en juillet dernier, Barack Obama, cette réalité du monde de la défense et de la sécurité européenne, ça n'existe pas. Et dans le cadre afghan, justement, dont il y a fait mention, il est évident que ça va faire très mal aux Européens, parce que le partenariat passera par le fait de devoir contribuer financièrement et humainement à l'Afghanistan. Et on voit bien tous les problèmes, même tout simplement vis-à-vis des opinions publiques européennes, que cela va poser. Il est évident aussi qu'une montée en puissance de l'OTAN sur le théâtre afghan se fera au détriment, quelque part, au moins sur les moyens financiers, sur l'avancée d'une Europe de la défense. Et ça, je pense que, autant peut-être nos dirigeants européens en ont conscience, mais je n'ai pas du tout l'impression, en tout cas surtout en France, que la population ait vraiment réalisé les enjeux qui sont derrière à la fois l'OTAN et l'Afghanistan et la question de l'Europe et des États-Unis.
D'ailleurs, à cet égard, je pense que Nicolas Sarkozy est assez clair sur le positionnement de son administration. C'est-à-dire, je pense que Sarkozy voudrait bien effectuer un rapprochement au sein de la structure de commandement intégré de l'OTAN que Charles de Gaulle avait décidé de quitter à la fin des années 60.
Alors j'aimerais comprendre une chose, aux yeux de Barack Obama, jusqu'où va l'Europe? Olivier Hubac disait qu'Obama ne parlait pas d'Union Européenne mais d'Europe. Alors est-ce qu'elle inclut la Russie? Qui peut répondre? Catherine Croisier.
Non, je pense qu'Obama n'inclut absolument pas la Russie dans l'Europe. La position de Medvedev a été très très claire au lendemain de la victoire d'Obama en signifiant que la Russie avait son propre rôle à jouer, son propre agenda, et qu'il n'entendait pas laisser et les États-Unis et l'OTAN maîtriser ce grand continent européen, et que, évidemment, la position russe est véritablement celle de la confrontation. On est dans une logique de confrontation qui perdure. Alors, effectivement, le fait d'avoir Barack Obama plutôt que John McCain, ce serait quelque chose de plutôt rassurant, puisque McCain s'était véritablement posé contre la Russie de Poutine et Medvedev. Mais on ne sait pas véritablement quelle va être la réponse d'Obama sur le sujet. Il est évident que Obama ne mélange pas Russie et Europe.
Alors la Russie en tout cas suscite des réactions ici, Philippe Golub.
Je pense en essayant d'être distancié et objectif sur la question, non pas pour défendre la position russe, mais essayer de comprendre ce qui se passe, que la Russie est en train aujourd'hui de tester les intentions de la nouvelle équipe américaine plutôt que d'être dans une posture véritablement de confrontation. D'ailleurs, quand on lit, relit aujourd'hui ce qui s'est passé en Géorgie, il n'est pas tout à fait clair que la Russie ait été le seul agresseur dans le conflit géorgien. Des documents viennent de sortir aux États-Unis. Mais ce que je voulais dire, c'est que la Russie a une mémoire historique. Les dirigeants russes ont une mémoire historique. Ils veulent restaurer la puissance. L'équipe qui va se mettre en place avec Obama, c'est une équipe qui sort de l'ère Clinton en relations internationales, aux affaires étrangères. Anthony Lake, Susan Rice, Richard Holbrooke. Bon, toute cette bande-là, c'était une bande d'internationalistes interventionnistes libéraux qui ont été à la base de l'expansion de l'OTAN, n'est-ce pas? Or, Clinton avait promis de ne pas étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Ces promesses n'ont pas été réalisées, et de même avec Bush. Résultat, la Russie essaie de se repositionner, mais je pense qu'Obama, dans une période de grande crise internationale, va non pas rentrer lui-même dans une logique de confrontation, mais au contraire va tenter d'aplanir les relations.
Enfin, sous l'ère Bush, les frontières de l'OTAN se sont quand même fortement rapprochées de la Russie, d'où les fortes tensions. Olivier Hubac.
Pour moi, la question va se poser entre, justement, où comment c'est où s'arrête l'Europe, une grande question à laquelle les Européens eux-mêmes ne veulent pas répondre. Les Russes, entre guillemets, nous aident dans leur vision géopolitique à répondre à cette question, et qui sera, à mon sens, dans les années à venir, et plus on va rentrer dans une coopération entre la Russie, l'Europe, et puis les États-Unis et la Russie, qui va devoir s'affiner. C'est tout l'espace qu'il y a entre les frontières russes et l'espace européen. Et ce que les Russes appellent l'étranger proche, toute la question sera là. Les Russes sont très clairs sur leur position. L'étranger proche fait partie historique de leur sphère d'influence, où il n'est pas question que ni l'Union Européenne ni l'OTAN n'aient son mot à dire. C'est le cas de la Géorgie, hein, sur la façon dont ça a pu se passer. La question, c'est de savoir où s'arrête et où commence réellement l'étranger proche, et surtout le droit des peuples sur ces territoires à disposer, entre guillemets, d'eux-mêmes politiquement. Et je pense que tout le jeu subtil qui aura à venir pour savoir où commence et où s'arrête l'Europe et où commence et où s'arrête aussi l'espace russe se situera à ce niveau-là. Mais je pense que des aspects vraiment confrontation directe, on l'a vu avec la Géorgie, moi je n'y crois pas. Je pense qu'on ira plutôt vers des jeux beaucoup plus subtils de tentatives de faire basculer plutôt les pays en place, plus que de jouer réellement la confrontation entre des États beaucoup trop puissants, en fin de compte, que sont les États-Unis et la Russie sur des zones très fragiles.
Ronald Dato, vous avez sorti un billet de 20 euros pour nous montrer les limites de l'Europe. Alors, en quelques secondes.
On voit bien que à partir d'un billet de 20, de 10 ou de 5 euros, on sent sur le billet qu'il y a une ambiguïté. Où est-ce que ça s'arrête? C'est à l'oral. Donc, il y a une partie, si on comprend bien à partir de la lecture graphique d'un billet d'euro, que l'Europe s'arrêterait à l'oral.
Géopolitique, le débat consacré à la présidence à venir de Barack Obama. Nous retrouvons nos invités Catherine Croisier, Ronald Atto, Philippe Golub et Olivier Hubac dans quelques instants, juste après le prochain journal. À tout de suite.